Salut, je suis Élie Estrel, bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, le prochain chapitre de la révolution féministe. Ici, je partage des hacks de Michto pour te rendre le love que tu mérites. Si t'es prête à transformer ta vie amoureuse en conte de fées féministes, on y va. Aujourd'hui, je t'invite dans un épisode culturel où je fais la review d'une œuvre qui aborde la question du travail du sexe. Bienvenue sur le podcast Cœur de Michto où je raconte comment la prostitution m'a donné un regard décalé sur l'hétérosexualité et quand même m'a donné des outils pour hacker le patriarcat. Aujourd'hui, c'est une petite capsule que je te fais. Capsule, c'est des petits épisodes que je fais avec les suggestions de mes abonnés sur Instagram. Donc si tu as envie de m'envoyer tes questions, si tu as des sujets qui te tiennent à cœur, et, ben, tu peux me retrouver sur Insta et m'envoyer un MP, c'est Cœur de Michto, tout attaché. Aujourd'hui, dans cette capsule, je te raconte ma vision de la série The Client List en tant qu'ancienne travailleuse du sexe. Qu'est-ce que j'en pense en tant que travailleuse du sexe? The Client List parle de travail du sexe et souvent quand on a des œuvres qui vont aborder le sujet, nous en tant qu'experts du sujet étant concernés, on le regarde avec notre grille de lecture en disant alors est-ce que ça c'est réaliste ou pas? Et ça politiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les scénaristes montrent ça plutôt que ça? Pourquoi est-ce qu'ils montrent certaines expériences et puis ils en cachent d'autres? Et donc j'avais écrit une petite review de la série que j'avais beaucoup aimée à l'époque où elle était sur Netflix. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est disponible sur la plateforme de Canal+. Donc, qu'est-ce que je pense de The Client List? Alors déjà, l'actrice principale de The Client List, c'est Jennifer Love Hewitt, qui est l'actrice de Ghost Whisperer. Et j'étais fan de cette série quand j'étais ado. Alors du coup, forcément, quand je l'ai vue là-dedans, je fais « Ok, let's go pour regarder The Client List ». Et j'ai trouvé des avantages à cette série, et puis j'ai trouvé aussi des points faibles. Il y a des points forts, des points faibles, mais comme toujours, hein. Donc c'est parti sur The Client List. Alors c'est une série qui décrit les enjeux de la vie de Riley, qui est une mère célibataire texane qui commence le travail du sexe pour nourrir sa famille. Elle se retrouve en fait avec son mari qui disparaît du jour au lendemain, et qui la laisse avec des dettes sans revenus. Donc elle se retrouve complètement acculée, et comme elle est formée au massage, elle se fait embaucher dans un spa qui laisse la liberté, dans la discrétion, d'offrir plus que des simples massages à des clients spéciaux qui figurent sur cette liste secrète. Attention, je vais lancer quelques spoilers dans cette review. Alors, on va commencer par la question de la putophobie et des revendications sex-positives. Donc les scénaristes, ils ont décidé de faire parler les deux camps pendant une dispute entre l'héroïne et sa meilleure amie. Donc sa meilleure amie trouve des sommes d'argent en cash qui sont planquées chez Riley, et petit à petit elle finit par comprendre que cet argent vient du travail du sexe. Et donc elle se rend au spa et elle la confronte dans un échange qui est assez violent. Et donc dans cette discussion là, les scénaristes en profitent pour faire parler les deux visions, les deux avis. Donc on a l'avis de Riley qui est l'avis d'une mère qui n'a pas trouvé d'autre option pour nourrir ses enfants, qui aime son travail et qui n'a pas honte de son travail. Et en face, l'avis de sa meilleure amie qui est une femme qui n'a pas d'enfants, qui est à moitié entretenue par son mari et qui ironiquement a beaucoup de mépris pour le travail du sexe et qui comprend pas du tout pourquoi son ami n'a pas trouvé une solution entre guillemets plus digne. Alors la série est pas particulièrement politisée et donc du coup ils vont pas trop en remettre en question ce continuum qu'il y a dans l'échange économico-sexuel qui pourtant pourrait être remis en question dans cette discussion là, même si elle nous montre à plein de reprises beaucoup de femmes qui vont utiliser le sexe dans leur mariage pour obtenir des cadeaux, le pardon, ou au contraire priver leur mari sexe pour obtenir gain de cause et qui ont une vie où ce sont vraiment des boniches à la maison pour qui prennent en charge tout pour leur mec, et c'est jamais montré comme quelque chose de problématique dans la série. Quand on est comme moi politisé sur la question du travail du sexe et de l'échange économico-sexuel qu'il y a dans l'hétérosexualité, on pourrait se dire qu'ils avaient quand même une bonne occasion de parler de ce truc-là, de dire en quoi c'est fondamentalement différent que une meuf dans le mariage obtienne des avantages financiers en promettant du sexe et qu'une meuf pas dans le mariage obtienne un avantage financier en s'adonnant au travail du sexe. La série montre deux endroits. Il y a Sugarland, qui est la ville où Riley travaille, et Beaumont, qui est la ville où il y a les maisons, etc. Et vraiment, il y a cette distinction géographique qui va pouvoir séparer bien les rôles des meufs. Et donc, dans ces deux endroits, il nous montre des femmes qui jouissent de leur pouvoir de séduction. Et c'est montré comme quelque chose de plutôt positif, d'empouvoirant. Mais en même temps, les hommes, eux, ils jouissent du pouvoir tout court et de l'argent. Et c'est montré comme étant dans l'ordre des choses. C'est pas forcément remis en question dans la série. À aucun moment, c'est montré comme un échange qui serait pas équilibré, qu'en fait, les meufs se font pigeonner en étant des boniches qui récupèrent quelques miettes et qu'elles se persuadent qu'en fait, elles sont gagnantes parce que c'était juste en échange de sexe. Il y a juste une scène où Riley parle un petit peu de cette question-là. Elle évoque cet équilibre-là, qu'elle trouve équilibré. En fait, c'est montré dans cette série comme quelque chose d'équilibré. Et sa collègue lui répond « Tu entends ce bruit ? C'est toute une armée de féministes qui se retournent dans leur tombe. Donc on a quand même un personnage qui est là pour parler de ce point de vue, de se dire c'est quand même pas forcément très équilibré d'un point de vue féministe. Et puis on a aussi des scènes où on va montrer ce genre d'échange, où on va échanger un massage ou un flirt contre un service. Et c'est montré dans des personnes qui sont entre des personnes qui sont pas forcément mariées. Donc par exemple pour obtenir des soutiens politiques ou obtenir des réparations entre guillemets gratuites. C'est pas gratuit puisqu'il y a un massage ou un flirt en échange, donc cet échange économico-sexuel, ce continuum-là, il est montré à plusieurs reprises dans la série sans qu'il y ait forcément comme volonté de montrer ça comme quelque chose de déséquilibré. Il y a aussi la question de la putophobie intériorisée qui est montrée dans cette série pendant toute la saison 1. On a régulièrement des scènes où Riley fait des cauchemars et où elle voit en fait son mari revenir et l'insulter parce qu'il a appris qu'elle se livre à du travail du sexe. Et je trouve ça particulier parce que en même temps, il y a une romance qui se développe entre l'héroïne et un autre personnage, et cette romance-là ne donne lieu à aucun cauchemar. Donc il semblerait que la culpabilité de Riley et ses craintes profondes d'être jugée, elle porte vraiment sur son travail en tant que travail du sexe et pas sur le fait d'avoir des interactions sexuelles avec d'autres hommes, parce que sinon elle aurait aussi des cauchemars par rapport à cette romance qui se développe. On a aussi toute la question de la putophobie légale qui est montrée dans la série, qui est bien montrée, qui est bien mise en avant, parce que le Texas, c'est un état où le travail du sexe est interdit. Donc le côté clandestin, il est constamment présent. Il y a un protocole très strict qui est mis en place pour éviter de se faire découvrir. Il y a constamment le risque qu'il y ait des descentes de police et ce risque-là est repoussé par Georgia qui est le personnage de la patronne du spa, qui est vraiment l'archétype de la maquerelle qui protège ses filles. Et donc du coup, il y a la série essaye vraiment de montrer à quel point le stigmate il est tenace et elle essaye de montrer un côté positif et empouvoirant par rapport à cette question du travail du sexe. Donc là, le premier point qu'elle va mettre en avant comme un point positif, c'est l'autonomie financière. C'est vraiment une situation qu'elle va mettre en lumière avec plusieurs personnages. Donc déjà, il y a le soulagement de Riley qui a trouvé de quoi se mettre à l'abri. D'ailleurs, je trouve que par rapport à la série, qu'elle paye ses dettes un peu trop rapidement à mon goût. Je trouve que c'est pas très réaliste par rapport à son taf. Donc son taf, c'est masseuse avec happy ending. Donc en fait, c'est branlette à la fin. Par rapport au sous qu'on se fait dans cette industrie, qu'elle puisse payer ses dettes aussi rapidement, je trouve que c'est pas très réaliste. Et ce thème-là, il est très central dans la série. Il y a un autre personnage qui est le personnage de Nikki qui est montré pour mettre en avant cette autonomie financière des femmes dans le travail du sexe. Nikki, c'est une étudiante qui vient d'une famille qui est peu éduquée et elle a beaucoup de fierté pendant toute la série et s'est montrée sous un angle positif du fait qu'elle finance ses études en étant travailleuse du sexe. La série montre quand même un obstacle qui, pour le coup, est assez réaliste, c'est que quand Riley elle décide d'utiliser cette autonomie financière qu'elle a pour aider sa mère à obtenir un prêt pour acheter le salon de coiffure qu'il emploie et où il y avait un risque que ses conditions de travail se dégradent, bien elle se heurte aux limites légales. En fait, cet argent étant sale, entre guillemets, elle ne peut pas aider sa mère, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est réaliste dans cette société qui stigmatise le travail du sexe. Il y a des bâtons dans les roues qui sont mis pour que les prostituées ne puissent pas jouir de la même autonomie financière que d'autres travailleuses, et notamment cette question d'investissement qui est difficile. Ça, c'est quelque chose d'assez réaliste. Donc, suivant les pays, les règles sont pas forcément les mêmes, mais en France, par exemple, où le travail du sexe est légal, c'est légal de se prostituer. Les collègues ont énormément de mal à se faire ouvrir des comptes bancaires parce que les banques considèrent que, c'est pas. Comme il y a un stigma sur le métier, qu'elles auraient le droit de pas ouvrir de compte. C'est pas. Je suis pas sûre que ce soit totalement légal de refuser un compte pour cette raison-là, alors que le travail du sexe n'est pas illégal. Mais bon, bref. Ça, c'était un point que je trouvais assez positif, parce que souvent dans les séries, on a soit des choses qui sont très misérabilistes, qui ne montrent que les mauvais côtés, soit des choses qui sont très empouvoirantes, qui ne montrent que les bons côtés. Et je trouve que c'était important que la série montre le côté que légalement, en fait, les travailleurs du sexe sont vraiment précarisés, harcelés par ces lois. Il y a une représentation dans cette série de deux mondes, qui est le monde de la prostitution choisie dans des conditions du mieux possible, et le monde de la prostitution forcée ou un peu poussée par la précarité économique, imposée par cette précarité économique où les conditions sont mauvaises. On va avoir deux univers, on a le cocon du spa, qui est vraiment un endroit où Georgia veille sur ses filles, où il y a de la solidarité, où Georgia les encourage vraiment à ne jamais dépasser leurs limites. C'est quelque chose qu'elle dit très régulièrement dans la série en disant ne faites rien qui vous mettrait mal à l'aise. Et ça, c'est une vision, je trouve que c'est chouette qu'il montre dans cette série, que même si la société juge cette activité, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'accepter n'importe quelle condition, et que quand on a la possibilité d'accepter des bonnes conditions, en fait, on le mérite, on a le droit de ne pas accepter de faire des trucs qu'on voudrait pas faire, d'être dans des bonnes conditions. Et il y a l'autre monde qui est le monde de la prostitution forcée, avec cette précarité, ces difficultés. Et le personnage de Nikki, en fait, il fait les allers-retours entre les deux. Elle a été au début, elle est danseuse, et elle a détesté cette expérience, qui était un domaine qui était beaucoup plus violent, avec un patron du club de striptease qui était violent, contraignant, etc. Et l'univers du spa lui permet de s'épanouir, lui plaît davantage. Et elle va vraiment être happée entre les deux. Il y a un moment donné où le patron du club de striptease la reprend sous sa coupe pour une histoire de dette. Et c'est la famille, entre guillemets, du spa qui vient la délivrer. Et je trouvais ça positif qu'il puisse montrer que la sororité qu'il peut y avoir dans ce monde-là, et au contraire la prédation qu'il peut y avoir dans ce monde-là, et que les deux sont très différents et qu'il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. C'est quelque chose que j'ai observé dans cette sororité de la confrérie des putes, ce discours de s'encourager, de se donner le droit de dire si tu ne te sens pas bien avec ça, ne le fais pas, c'est important de prendre soin de toi. C'est un discours que l'extérieur ne montre pas souvent. À l'extérieur, il y a des faux discours qui disent que quand on est prostituée, ça veut dire que si le client paye, on est obligé d'accepter tout ce qu'il dit. C'est faux, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et véhiculer ces idées-là, faire croire qu'on est obligé de. C'est mettre des nanas dans des situations où elles croient qu'elles n'ont pas le choix alors qu'elles l'ont. Et la série tombe pas dans le travers de prétendre que ce choix est forcément facile. Elle montre bien que quand on est précaire, c'est plus difficile d'avoir accès à ce choix, que ce choix il vient aussi de privilèges, du privilège d'être entouré, du privilège d'être moins acculé. J'ai des collègues que je connais qui sont masseuses, qui ont mélangé massage et happy ending. Ça reste un métier qui est très difficile, qui est éprouvant physiquement, où il y a des collègues qui se sont vraiment détruits les poignets en massant pendant des heures et des heures. Donc même si cet univers du spa, il est montré comme quelque chose de doux, ça reste des métiers qui ont une pénibilité physique qui est pas tant abordée que ça, en fait. C'est montré comme un boulot qu'on peut faire en mode genre nos problèmes, on y va, ça reste un métier qui demande qu'on se repose, qu'on apprenne l'ergonomie, qu'on fasse attention, qu'on prenne soin de son outil de travail, de son corps. Et puis un dernier point positif que j'ai trouvé dans la série, c'est que le côté body positive, il y est. Il y est à sa façon, parce que tout le monde, toutes les actrices sont refaites jusqu'aux oreilles, les dents sont blanchies, tout le monde a des faux cils, des brushings parfaits. Tout le monde est vraiment dans ce cliché archi sexy. Et pourtant, on nous rappellera dans cette série qu'il y a de la place pour tout le monde, que tout genre de femme peut se sentir séduisante, peut se sentir attractive. Donc c'est un message body positif qui est fait à la manière texane, voilà, ce côté très fossile et brushing, mais qui est distillé quand même dans la série, et je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça positif, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans l'univers du travail du sexe, c'est que cette image de la femme parfaite qui est la seule à avoir droit à l'amour parce que c'est la seule qui a droit à l'attention des hommes, c'est faux. Toutes les femmes peuvent susciter l'attention, et donc le corollaire, c'est que toutes les femmes peuvent être dans une relation où elles sont aimées. Ça ne veut pas dire forcément que cette attention égale amour, mais c'est ce qu'on a compris nous dans notre tête, que cette attention était un reflet de notre capacité à être aimée, et on partait déjà avec un biais de se dire toutes les femmes n'ont pas le droit à cette attention, ce qui est faux. Et cette série, elle montre ce truc-là. Moi, je trouve que c'est vraiment une leçon puissante que j'ai eue dans cet univers, effectivement, que c'est une idée fausse qu'on nous donne pour essayer de nous faire plus être au service de l'autre, se dire qu'on n'est jamais assez bien, qu'on n'est jamais assez belle, qu'on n'atteindra jamais assez les canons de beauté qu'on nous impose et que donc on n'a pas droit à ces relations. C'est complètement faux et The Client List, à sa manière, avec les paillettes et les fossiles, nous le dit aussi. Alors maintenant, je vais parler des limites que j'ai trouvées à The Client List, qui est la partie putophobie approuvée. Bien que la série essaye de montrer que la putophobie, que ce stigma, il est tenace et qu'elle essaye de le déconstruire, construire, de montrer des personnages positifs, d'empouvoirer ces personnages, d'essayer de mettre, de donner une image plus positive de la pute, eh bien il y a une partie de la putophobie qui reste approuvée dans la série. Je me dis que c'est sans doute pour s'adapter à un public américain qui est assez conservateur, ou alors qu'au fond d'eux, les scénaristes ont quand même un petit cœur putophobe qui s'ignore. Mais il y a plusieurs choses que j'ai trouvées problématiques dans cette série. Alors j'ai trouvé problématique l'image de la bonne pute, la bonne pute entre guillemets. Il y a beaucoup d'efforts déployés par les scénaristes pour maintenir l'approbation du public, qui repose sur un mécanisme de comparaison entre les mauvaises putes et les bonnes putes. Donc par exemple, on a une de ses collègues qui fait des passes à l'extérieur du spa, qui est montrée comme très vénale, c'est-à-dire qu'il y a un plan sur deux où on la montre en train de compter ses billets, fatiguée, d'un air satisfait entre deux vacheries à ses collègues, et elle passe sa vie à s'acheter des sacs à main, et ce personnage-là, il est jugé tout le temps pour être mis à côté de Riley et montrer que Riley, elle, c'est une bonne pute. Parce que Riley, elle ne fait que, entre guillemets, de la masturbation, alors que sa collègue fait des passes complètes à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est montré comme étant quelque chose d'un peu plus moral, en fait, que d'avoir des vraies relations sexuelles, entre guillemets, avec ses clients, des relations sexuelles pénétratives où elle serait pénétrée ou elle sucerait des clients. Donc, cette comparaison-là, elle est montrée, et même dans le personnage, Riley, sa vie, elle est très très chaste, c'est-à-dire qu'elle n'a connu qu'un seul homme, c'était son mari. Elle subit cette séparation, c'est-à-dire que son mari s'est barré sans la prévenir, elle n'a jamais été actrice là-dedans. Chaque fois qu'elle essaie de reconstruire sa vie, il y aura un espèce de malaise qui l'empêchera d'aller jusqu'au bout et de dépasser le stade du simple baiser, de juste embrasser. Donc, toute la partie romance qu'elle développe avec un autre personnage, ben ça elle est toujours en train de se dire non, elle peut pas aller plus loin. Donc du coup on la montre, voilà, donc toute la journée elle branle des mecs, mais c'est une bonne pute entre guillemets, parce qu'elle ne couche pas à droite à gauche, parce qu'elle n'a pas une vie dissolue. À un moment elle évoque sa libido depuis que son mari est parti, le fait qu'elle se masturbe pour compenser. Il y a des moments où elle espionne dans les vestiaires le collègue sexy. C'est pas montré comme problématique, alors qu'effectivement espionner dans les vestiaires, si c'était inversé, un mec qui espionnerait ses collègues sexy, ce serait pas terrible. Mais c'est montré, voilà, sous ce ton de la gentille fille sexy et rigolote qui se contente ensuite de rentrer sagement chez elle pour s'occuper de ses enfants, sans passer par la case fornication. Et au final, donc là c'est un spoiler, elle finira par faire une passe dans des conditions rocambolesques. Donc les conditions, c'est que donc son mari réapparaît à la fin de la saison 1, il est emprisonné et il y a une énorme somme qui lui est demandée pour lui éviter la prison. Et en même temps, un client qui est charmé et qui est très romantique lui propose 50 000 dollars pour coucher avec elle. Alors là encore, en fait, c'est une situation disproportionnée, ça correspond pas au tarif, 50 000 dollars. La grille tarifaire, là, on est vraiment sur une grille tarifaire complètement ubuesque. Et c'est un des outils qui est montré pour faire en sorte qu'on garde notre sympathie pour Riley, qu'on la juge pas en tant que mauvaise pute. Donc au début, elle refuse. Elle hésite, donc tout ce moment où elle n'y va pas directement est là pour nous montrer qu'elle a un dilemme moral, qu'elle reste, voilà, qu'elle reste morale, que ça reste une bonne pute. Elle s'y rend finalement, on voit à quel point elle est tourmentée. Elle finit, quand la passe est finie, à se laver frénétiquement en pleurant, et tout le reste de l'épisode, elle va pleurer, beaucoup pleurer. C'est à ce prix-là que les scénaristes arrivent à nous faire continuer à aimer Riley, qu'elle reste cette bonne pute parce qu'elle a hésité, parce que la somme était énorme, parce que c'était pour une bonne cause et pour sauver son mari, et parce qu'elle souffre. En fait, effectivement, les scénaristes mettent tous ces éléments pour, voilà, cette comparaison, pour nous dire que, voilà, elle reste un personnage digne d'être aimé. Elle le dit, hein, dans la série, qu'elle aurait couché avec ce client qui est beau, qui est attentionné, s'il y avait eu d'autres circonstances. Par exemple, si son mari n'était jamais revenu, qu'il n'y avait pas eu d'argent en jeu, qu'elle avait rencontré dans d'autres circonstances, si ça avait été dans une suite logique pour reconstruire sa vie. Mais être payé pour ça la met très 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 mal à l'aise. Et moi, c'est un point qui m'a gênée dans la série, c'est cette hiérarchie des putes. C'est-à-dire vraiment de nous dire on va accepter certaines putes, et le prix pour accepter certaines putes, parce que notre société est putophobe, c'est d'en refuser d'autres, c'est de juger d'autres. Il y a un autre point, voilà, que j'ai pas trouvé en tant que travailleuse du sexe, que j'ai pas aimé sur cette direction que les scénaristes ont. Puisque comme je te le dis, j'ai cette casquette de scénariste aussi, hein. J'ai cette casquette de dire, je sais, quand les scénaristes veulent montrer quelque chose, ils veulent le montrer sous un certain angle, parce que c'est mon travail aussi de faire ça. Pendant la passe, Riley décide qu'elle ne va pas embrasser le client. Comme elle dit que c'est comme dans Pretty Woman, donc elle a cette référence-là. Et le client lui dit que ça va pas être possible, que lui, il veut avoir accès à toute sa personne. Il paye pour avoir accès à toute sa personne, et si elle ne veut pas qu'il l'embrasse, il ne paiera pas, et la passe n'aura pas lieu, et il s'arrêtera là. Et c'est montré par les scénaristes comme quelque chose de positif, en tant que client respectueux. Les scénaristes montrent que, en disant qu'il veut pouvoir l'embrasser pendant la passe, ça veut dire qu'il souhaite seulement mieux la connaître et la comprendre aussi bien que elle l'a compris. C'est ce retour de bâton, non pas ce retour de bâton, ce retour d'ascenseur, où en fait il s'est senti très très bien pendant ce massage, où elle était prestataire et où du coup elle était vraiment à son écoute, et il veut pouvoir lui offrir la même chose en la payant dans une passe où il pourrait l'embrasser, lui faire l'amour, etc. Et je trouve que, après avoir entendu pendant toute la saison Georgia dire à ses filles que c'est important de respecter ses limites, eh ben je suis déçue que les scénaristes aient utilisé ce point-là pour le montrer comme un bon client, comme un client respectueux qui veut juste lui faire l'amour. plutôt que de laisser à Riley l'assertivité de poser ses limites, de dire je suis à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise avec ça. C'est sa manière à elle en fait de dissocier son intimité, de mettre une limite, de dire je ne vais pas, en fait non, je ne vais pas faire l'amour avec le client, je vais faire une passe. Parce que j'ai besoin de cet argent, parce que je respecte mon mari, que je suis toujours mariée avec lui. Pour elle, c'est important que dans son travail du sexe, ce soit dissocié de son intimité. Et ce n'est pas ce que veut le client, il veut payer pour avoir accès à son intimité. Et les scénaristes pensent, parce qu'ils sont sans doute pas dans cet univers-là, que c'est romantique, que c'est respectueux. En tant que prostituée, je suis pas certaine, enfin moi et la plupart de mes collègues, en fait, nous on n'apprécie pas que les clients essayent d'avoir accès à notre vraie intimité, même si eux pensent que ça part d'un bon sentiment qui nous humanise plus quand ils accèdent à notre vraie intimité. Nous on a besoin de dissocier cette intimité pour faire ce travail. On aimerait pouvoir être humanisé, respecté et être booké en tant que travailleuse dans des conditions qui nous permettent de respecter ce besoin de séparer notre vie pro de notre vie perso. Et enfin, tout comme ils ont montré la bonne pute et la mauvaise pute, ils montrent aussi le bon client et le mauvais client. Cette image du bon client, tous les acteurs sont montrés, donc les clients sont toujours jeunes, bodybuildés, très très beaux. À part ces gars-là, il y a quelques vieux monsieur qui sont des monsieur puissants, mais qui sont pas montrés comme repoussants. Et il nous faut bien ces personnages-là pour éviter la jungle de la police, des juges. Georgia, elle joue beaucoup là-dessus pour se protéger des risques que son salon soit fermé et que ses employés soient arrêtés. La série, elle nous montre un univers très glamourisé de la prostitution. C'est glamourisé à l'extrême. C'est l'argument central dans cette série que ces gentlemen, en fait, ils cherchent souvent juste une oreille attentive et un contact humain. Il y a beaucoup de scènes où, en fait, on va beaucoup humaniser ses clients et montrer pourquoi ils viennent pour des raisons avant tout humaines et pas juste de consommation. Et quelque part, c'est quelque chose qui est un petit peu vrai. Il y a des clients comme ça, c'est un argument que Riley va beaucoup utiliser pour dire qu'elle aime son métier, et c'est quelque chose qui correspond à une sorte de réalité. Il y a des clients qui sont très humains et qui nous font aimer notre métier, mais les mauvais côtés sont jamais montrés. Ils sont seulement évoqués d'une façon très très lointaine dans ce monde parallèle au spa. Riley rappelle à sa collègue que les passes qu'elle fait à l'extérieur sont déloyales pour le spa, c'est de la concurrence déloyale, mais elle lui dit que c'est surtout dangereux parce qu'elle a pas, il n'y a pas la protection de Georgia. Et donc elle évoque ce côté moins humanisant avec des clients qui sont moins sympas, qui sont plus pour consommer, qui sont moins délicats, qui sont pas sympas ou dangereux, en parlant de ce qui se passe à l'extérieur du spa. Le travail au spa, c'est montré comme quelque chose de rigolo, de sexy, avec un caractère souvent thérapeutique. On n'envisage pas du tout que Riley elle puisse faire ce travail juste parce qu'il est moins pire que les autres et que c'est pas forcément un travail qu'elle kifferait, qu'un travail où elle s'amuserait. Parce que c'est la réalité de beaucoup de prostituées en fait, elles sont pas contraintes dans le sens où elles ont choisi ce métier parmi d'autres qui étaient plus difficiles pour elles et qu'elles ont, il y a pas forcément, qu'il y a beaucoup de nanas qui n'aiment pas ce boulot en fait, et qui l'ont choisi parce que c'était ça au McDo et que McDo, enfin pour elles c'était pas gérable. Et dans cette série-là, ils ne montrent pas cet aspect-là de nanas qui peuvent rester empouvoirées dans un taf qui est pas forcément glamour et agréable. Donc mon verdict pour cette série-là, ça aurait été difficile de pas trouver de faux pas. On est quand même dans un monde qui est sexiste, donc il y avait forcément des exagérations, du sexisme. Et en même temps, c'est le Texas, et je trouve que partant de ce truc-là, je trouve que c'est pas si mal pour commencer à vulgariser les mouvements pro-sexe pour un public à destination d'un public qui est conservateur. Je donne donc une note de 4 étoiles sur 5 à cette comédie qui apporte de la légèreté au sujet sans omettre certains aspects négatifs et notamment tout le versant légal qui harcèle les travailleuses du sexe, malgré ces petits faux pas qui font que je lui donne pas une note de 5 sur 5. Mais moi j'ai beaucoup aimé voir cette série en mode de reposage de cerveau. C'est une série, voilà, c'est pétillant, c'est romantique, c'est militant aussi à sa sauce, sans être parfait. Voilà. On arrive à la fin de l'épisode. Si tu l'as aimé, bah, passe me mettre 5 étoiles. Et puis bien sûr, n'hésite pas à partager ton épisode Mind Blow, celui qui t'a le plus fait kiffer au syndicat des meufs de ta vie. Je te laisse et je te dis à bientôt.